Zoomat présente.
Ballroom. I have little occasion to dance these days. I trust you recognize the Last Supper, the great fresco by Leonardo da Vinci. And my dear, if you would close your eyes.
Lee, save us the parlor tricks.
You asked for my help, I recall. Allow an old man his indulgences. Now, mademoiselle, where is Jesus sitting?
In the middle.
Good. He and his disciples are breaking bread. And what drink?
Wine. They drank wine.
Splendid. And one final question. How many wine glasses are there on the table?
One. The Holy Grail.
Open your eyes. No single cup. No chalice. Well, that's a bit strange, isn't it? Considering both the Bible and standard Grail legends celebrate this moment as the definitive arrival of the Holy Grail. Now, Robert, you could be of help to us. If you'd be so kind as to show us the symbols for man and woman, please.
Oh, no balloon animals. Huh. They can make a great duck. This is the original icon for male. It's a rudimentary phallus.
Quite to the point.
Yes, indeed.
It's known as the blade. It represents aggression and manhood. It's a symbol still used today in modern military uniforms.
Yes, the more penises you have, the higher your rank, boys will be boys.
Now, as you would imagine, the female symbol is its exact opposite. This is called the chalice.
And the chalice resembles a cup or vessel, or more importantly, the shape of a woman's womb. No, the Grail has never been a cup. It is quite literally this ancient symbol of womanhood. And in this case, a woman who carried a secret so powerful that if revealed, it would devastate the very foundations of Christianity.
Wait, please. You're saying the Holy Grail is a person? A woman?
And it turns out she makes an appearance. Right there.
But they're all men.
Are they? What about that figure on the right hand of our Lord, seated in the place of honor? Flowing red hair, folded feminine hands, hint of a bosom, no?
Incroyable.
Pas tout à fait. It's called scotoma. The mind sees what it chooses to see.
Who is she?
My dear, that's Mary Magdalene.
The prostitute?
She was no such thing. smeared by the church in 591 Anno Domini. Poor dear. Mary Magdalene was Jesus' wife.
J'ai l'impression que ce rapprochement erroné qu'on pourrait faire entre gnosticisme et
conspirationnisme,
c'est à cause de la persistance de la diabolisation des textes gnostiques.
J'entends bien, et à partir du moment où, de toute façon, les gnostiques ont émis un point de vue extrêmement pessimiste sur fonctionnement du monde, on pourrait dire ils voient le monde sous l'angle d'un grand complot du démiurge. Mm-hmm. Mais c'est une, on va dire que c'est une, pour moi c'est le problème, c'est en fait le problème de ce que c'est que ce qu'on appelle complotisme. Et je trouve que c'est généralement un thème traité, que ce soit journalistiquement ou universitairement, de façon un peu trop simplifiée.
Cette simplification-là qui est très présente dans une œuvre qui a popularisé certains textes gnostiques, mais les textes eux-mêmes, pas tant leur philosophie, qui est le Da Vinci Code.
Ah oui, alors ça c'est intéressant qu'on en parle. Oui, alors ouais. Alors, oui, bien sûr, je comprends, en fait, c'était lié à ça. Alors, le Da Vinci Code, l'histoire du Da Vinci Code et toute la mythologie qui va avec, renvoie à une histoire particulière, curieusement une histoire française, qui est celle de Rennes-le-Château. Et en fait, s'il y a une ambiguïté là-dessus, elle vient de cette espèce de gigantesque chaos que représentent les approches de Rennes-le-Château depuis les années 60-70 jusqu'à nos jours. Et là, on est dans un terrain qui est particulièrement miné. Qui est miné pourquoi ? Parce que dès le départ, il y a eu des faux qui ont été faits. Il y a eu des faux, il y a eu des mystifications. Il y a eu derrière le désir de créer des mythologies à partir de cette histoire, qui est une histoire bizarre. Il faut quand même l'admettre, c'est un prêtre, pour la résumer, dans la ville de Rennes-le-Château, donc en Ariège, donc dans des terres qui ne sont pas très loin des terres cathares, enfin c'est la même région, c'est le sud-ouest de la France, pas loin de Bugarrache, où il y a eu toute une mythologie en 2012, comme quoi c'était un endroit où on allait survivre à la fin du monde. Donc dans ce coin-là, dans la ville de Rennes-le-Château, un prêtre s'est retrouvé avoir des moyens financiers étonnants qui lui ont permis de refaire toute son église, et il l'a refait en faisant des choses très bizarres dedans, en mettant un diable à l'entrée, en traficotant un peu les symboles à sa sauce, tout en ayant, en tenant une sorte de salon, avec des gens, des figures du monde occultiste ou ésotériste parisien ont pu se rendre, dont la cantatrice Emma Calvé. Donc on a en effet un prêtre qui a des moyens, qui aussi déterre beaucoup de choses, réenterre beaucoup de choses, fait des trous, sort des choses, on ne sait pas trop quoi, les remet. Il excave des éléments résiduels archéologiques, probablement liés à des passages antérieurs de chevaliers ou d'ordres. Un bas-relief bizarre avec deux chevaliers sur un cheval, dont on ne sait pas trop à quoi ça renvoie, mais enfin bon, c'est des choses qui sont très très éloignées des textes gnostiques encore à ce moment-là. Et à ça, plusieurs embrouilleurs vont mêler le mythe que dans cette église est survécu, enfin, et cette église fait partie des propriétés d'un groupe qu'ils ont appelé le prieuré de Sion, qui aurait protégé une lignée de rois secrets qui seraient les descendants de Jésus et de Marie-Madeleine. Alors, je vois bien pourquoi après on va raccrocher ça au gnostique. C'est lié à l'histoire d'amour de Jésus et de Marie-Madeleine. Cet élément, la figure de Marie-Madeleine, la relation avec Jésus, oui, elle a été niée par les chrétiens très vite. dans le Nouveau Testament, Marie-Madeleine n'apparaît que comme une possédée exorcisée par Jésus et ensuite faisant partie des donatrices qui, après, va accompagner Jésus à différentes étapes et la mère de Jésus et qui va être la première témoin de la résurrection. Voilà Marie-Madeleine dans les évangiles. Après, l'Église va dire que c'était dans un premier temps une pécheresse repentie, dans un deuxième temps une prostituée repentie. Ils vont volontairement mélanger la figure de Marie-Madeleine avec celle de Marie l'Égyptienne, qui est une fameuse figure de sainte, ancienne prostituée. Mais c'est vraiment deux histoires qui sont à deux siècles de distance. Mais en parallèle, il y a toujours eu une curiosité sur Marie-Madeleine. Alors, évidemment, les gnostiques, eux, ont fait de Marie-Madeleine la compagne de Jésus. C'est dit directement dans l'évangile de Philippe, et c'est aussi largement évoqué dans l'évangile de Marie-Madeleine. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, on met surtout en avant le fait que Jésus lui aurait dit des choses en privé, et donc Pierre s'énerve parce qu'on est obligé de passer par elle pour savoir des choses qu'a dit Jésus. Il se trouve qu'il l'a jugée digne de savoir des choses que ça n'est pas digne. Mais dans l'évangile de Philippe, elle est présentée comme la compagne de Jésus. Il est même dit qu'il s'embrasse sur la bouche, ce qui choquait beaucoup les apôtres. Il s'embrasse sur la bouche en public. Voilà, c'est ça qui était malvenu. Et dedans, dans l'évangile de Philippe, Jésus, du reste, a tout un discours érotique. Enfin, il y a toute une partie du discours de Jésus qui tient à la question de la valeur spirituelle de l'étreinte charnelle. Mais le soupçon de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine a perduré tout le long des siècles, en fait. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui est assumé pleinement par les gnostiques, c'est quelque chose qui est resté comme un questionnement dans l'histoire, de simple fait que, de toute manière, c'est le personnage féminin principal des évangiles et qu'elle voit Jésus quand il sort du tombeau et qu'à ce moment-là, Jésus lui dit « ne me touche pas ». Et surtout, qu'elle emploie un terme affectueux quand elle le voit apparaître puisqu'elle dit « rabouni », c'est-à-dire « mon rabbin chéri, mon rabbin adoré, mon petit rabbin ». Donc, le rabouni qui est présent dans les évangiles, laisser soupçonner, et puis après les peintures qui ont été faites de cette scène, évidemment, ont impliqué la possibilité, en tout cas, qui est, si ce n'est une relation entre Jésus et Marie-Madeleine, la possibilité ou l'interdit de penser cette romance. Donc moi, je pense que c'est de là que vient, lorsque, au cours du XIXe siècle et au XXe siècle, l'élaboration de la mythologie autour du Da Vinci Code, la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. C'est parce que de toute manière, c'est quelque chose auquel les hommes ont toujours pensé. Regarde ce roman de Nikos Kavatskantis, enfin, qu'a adapté Scorsese, la dernière. Ouais,
je voulais aborder ça avec toi, ce film-là de Scorsese, connaître ton opinion, parce que
oui.
C'est un film qui, en fait, ce que je me rends compte, c'est ce qui fascine réellement les gens, c'est la possibilité de la vie charnelle du Christ.
Oui, 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 oui.
Mais si on l'évoque explicitement, comme l'a fait Scorsese, c'est un scandale. On préfère que ce soit ambigu. On revient souvent sur le fait que Jésus était un homme. Donc, il pouvait être tenté, il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif. Par contre, ce qu'il faisait avec Marie Magdalene, on préfère ne pas l'évoquer.
Ben, ça, c'est vraiment le sujet du livre de William Reich, Le meurtre du Christ, qui est un très grand livre, un livre très important, hein. Le meurtre du Christ, qui se rapproche beaucoup du reste de ce qu'a pu écrire D.H. Lawrence, entre Apocalypse et puis L'homme qui était mort. C'est-à-dire que c'est des penseurs qui sont tellement... qui questionnent tellement le rapport des hommes à la sexualité, qui se disent qu'il y a un problème avec le fait qu'ils aient représenté leur Dieu comme un puceau. Et c'est ça sur lequel ils ont buté. C'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de nous dire quand Dieu s'est fait homme, il n'a pas connu de femme. C'est abyssal, hein, ce truc-là. Donc, alors, ils ont une manière différente de l'aborder. Moi, je suis plus sensible à la façon de Reich, dans lequel il dit « il n'y a aucun doute que Jésus ait aimé les femmes et était aimé d'elles. » Il n'y a aucun doute. Et c'est vrai qu'il suffit même de lire les évangiles pour le saisir. Puis de toute façon, après, il y a la façon dont les figures de saintes ont été amoureuses de Jésus, jusqu'à Thérèse de Lisieux, qui laisse penser au, on va dire, au sex appeal inouï de sa figure, sex appeal quasiment de rocker, quoi. Quelque chose qu'on trouve aussi dans le livre de la poétesse Emilia Lanier. Cette poétesse, une contemporaine de Shakespeare, et il y a de forts soupçons que ce soit le modèle féminin des pièces de Shakespeare et la Dark Lady des Sonnets. Elle a écrit un grand poème qui est un poème qui est sous-titré « En défense des femmes », qui, on peut dire, est un texte proto-féministe du XVIe siècle, où elle met en accusation les hommes dans leur tentative de réduire les femmes à néant dans la société. Et elle s'en prend aussi à toutes les figures religieuses, sauf Jésus. Et où elle dit, voilà, il y a un homme qui était un homme qui nous aimait et qu'on aimait. Maybe the words I say is just another way to pray. I don't know. Don't think that I'm innocent, cause I can't do nothing further. I only ask of you just as I got to do myself. Look into your inner self. Only you know how to be free. If you want a grin, let it smile. Feel a little happy, go on, dance a while. Can't nobody play down God's loving child. Cause when the spirit hits you, you got the mood. And just as he made us one of many, then aren't the many of us maybe only one? Surely can he be the rising sun, the depth of night, the light for sight? Sort of sets the moral standards of soul. Gives you the strength to pay the price of life. And rewards you with a bit of fulfillment. The definition of truth. He is more real than you, isn't he? Must have been a heavenly man. Jesus. Lot of inspiration all over this land. Jesus. Spite of your fears, you can shed happy tears. Jesus. Don't care what you call him. None can befall him. Hear me say amen. Stand up and clap your hands. Amen, amen, amen. A traveling soul, the way the story goes. We all know he was crucified, but what he gave us never will die. He never had a hustling man doing crime. Wasting time, drinking that wine, drinking that wine, drinking and a drinking and a drinking and a drinking. You need courage in time of fear. Je crois que c'est là le point en fait, vraiment le nœud de toute cette incroyable problème qui est, on peut dire, une problème de civilisation, parce que d'avoir, c'est ce que dit Reich, d'avoir retiré à Jésus sa vie charnelle, ses amours charnelles, a impliqué ensuite le traitement de la sexualité dans la civilisation occidentale sous un certain mode qui était un mode propice aux névroses et aux perversions. En fait, il ne pouvait pas aboutir à autre chose même.
Et là, on en arrive à peut-être la position de Michel Foucault par rapport à ça, parce que on parle un peu d'une immense hypocrisie de la part de l'Église, que tout ça serait lié en partie avec cette volonté d'ignorer la vie érotique du Christ.
Et de faire en fait de la vie érotique un objet de honte ou de sarcasme, ce qui est une autre manière de faire de la honte. C'est-à-dire que je suis assez d'accord, si on parle de philosophe, avec Spinoza, qui considérait que la satire était la forme la plus basse de l'humour. Bon, il y a des auteurs satiriques que j'adore, mais enfin, en tout cas, l'humour grivois, par exemple, est une des conséquences de la honte. C'est-à-dire que du coup, ça devient l'objet du ridicule, une forme très tordue de rapport à son propre désir.
À ce sujet, une de mes grandes surprises, la première fois où j'ai vraiment lu les textes gnostiques, c'est la présence des femmes.
Oui, oui.
C'est
oui, oui.
Étonnant de lire des récits bibliques avec des femmes fortes qui jouent un rôle prédominant.
Oui.
Ce qui n'est pas du tout le cas des écrits canoniques, on est d'accord.
Non, tout à fait. Après, il faudra attendre les vies de saintes. Mais c'est des vies pas très enviables.
Ouais.
La présence des femmes, la présence à égalité des femmes et des hommes, surtout leur récit de Genèse, passionnante, qui m'a, enfin moi ça m'a attardé très longtemps. Je veux dire, c'est le livre que j'ai écrit après Les 100 Rois, c'est comme Orsi Camour, part vraiment du choc qui a été pour moi de lire. Un écrit qu'on appelle écrit sans titre hein, dans les textes de Nag Hammadi, mais qui est une autre histoire de la Genèse dans lequel le démiurge, dans le désir d'être adoré, crée un être débile, littéralement présenté comme un pantin désarticulé, Adam, qu'il place dans une fosse, qu'il appelle le jardin d'Éden, mais c'est une fosse à excréments. Et face à ça, une des émanations de la divinité, donc la Sophia, décide de répondre en envoyant une figure androgyne qui deviendra féminine pour Adam et qui s'appelle Ève de la vie. Mais lorsqu'elle arrive sur Terre, elle est interceptée par les archontes qui la violent et la violentent. Parce qu'aussi un autre point vraiment surprenant dans les textes de Nag Hammadi, c'est toute la question de la violence, dont la violence sexuelle, comme outil de domination. Ça, c'est très curieux. Je me demande même ce qu'ils pouvaient en comprendre, les gens au deuxième ou au troisième siècle, de ces questions-là. Enfin, comment ils étaient abordés. Ça montre qu'elles ont toujours été là, en fait, ces questions-là. C'est une des grandes leçons de la découverte des textes de Nag Hammadi, c'est que les questions qu'on croit être les questions de la modernité sont des questions de tout temps. Et donc, les personnes qui estiment curieux qu'on les aborde aujourd'hui ont juste pas vu leur présence antérieure, ont juste décidé d'ignorer leur présence antérieure. Donc, Ève de la vie est brutalisée et violée par les archontes.
Les archontes
C'est les anges mauvais du démiurge. C'est ces sortes de...
D'accord.
C'est des anges, mais c'est des salopards. C'est une sorte de douanier ou de flic qui gère le passage entre l'absolu et la forme terrestre. Et ils réussissent à créer cette espèce de malentendu initial entre Adam et Ève, qui font que l'un comme l'autre pensent qu'ils sont la source de leur malheur. C'est une autre histoire que l'histoire du péché originel. En fait, c'est l'histoire du malentendu initial entre les sexes. Malentendu initial entre les sexes qui est l'outil privilégié de domination du démiurge.
Et d'ailleurs, une des figures de ce récit-là qui a été rescapée par la culture populaire encore aujourd'hui, c'est Lilith.
Ouais, c'est vrai.
Que la plupart des gens vont découvrir son existence au cinéma, dans les séries, alors que dans la Bible elle-même, de mémoire, elle n'y est pas.
Non, en fait, alors c'est pas une figure gnostique à proprement parler, mais c'est une figure passionnante. C'est une figure des textes pseudépigraphiques juifs et qu'on va retrouver aussi dans la Kabbale. Et c'est vrai qu'elle a une très grande place dans la culture populaire. Mais oui, un des chocs, moi, que j'ai régulièrement quand je retourne dans les textes gnostiques, c'est à quel point ils résonnent avec l'actualité. Et ils résonnent d'une bonne façon. Parce qu'on pourrait dire les textes sacrés résonnent toujours avec l'actualité. C'est leur principe. Mais ils vont souvent résonner d'une façon très surplombante. Les textes gnostiques vont résonner exactement comme dans les livres, les romans de Dick Ubik, la divinité qui essaye de faire passer des messages en contrebande. C'est-à-dire qu'en contrebande, ils nous passent des informations. Et on peut dire de toute façon qu'ils ont été écrits pour nous. Moi, c'est ce que je pense. En tout cas, c'était à partir du moment de toute façon, où ces textes n'étaient pas disponibles pendant 16 siècles. Pendant 16 siècles, ils ont été enfermés dans une jarre au fin fond du désert. Alors, de toute façon, ils sont impensables en dehors de notre réception. Et donc, il n'est pas intéressant d'essayer d'imaginer ce qu'ils étaient. Enfin, ça peut être intéressant, mais c'est secondaire d'imaginer ce qu'ils ont été pour les hommes de cette époque. Ce qui est important, c'est qu'ils existent pour les hommes de notre époque. Et de toute façon, cet événement qui a été la découverte des textes Nag Hammadi est redoublé par toutes ses conséquences, toute la profusion d'œuvres de ce qu'a été la culture populaire à partir des années 60, qui est différente quand même malgré tout, parce que c'est une séquence qui s'ouvre avec Sgt. Pepper des Beatles. C'est une séquence qui est le moment où la culture populaire sait quel est le vecteur, tandis qu'avant, elle l'était non consciemment. Elle l'a toujours été, mais elle ne pouvait pas l'assumer. Soudain, avec Sgt. Pepper, elle l'assume. Et donc, la conséquence, c'est que... Pourquoi ? Parce qu'elle est... elle devient un folklore mondial. Il y a toujours eu des folklores, et ces folklores renvoyaient toujours, finalement, à un fond de connaissances communes, connaissances par la bande. Toute la culture carnavalesque, on pourrait dire, tient à ça. Et donc, les folklores des campagnes, les folklores de tous les pays, d'où le tentative de réunir tous les récits folkloriques de façon organisée, le classement Arne Thomas, un truc comme ça, un nom un peu de ce genre. Enfin, il y a eu un gigantesque classement de tous les récits types et de toutes les occurrences dans le monde entier des mêmes schèmes folkloriques. Maintenant, à partir du moment où il y a eu une culture mondiale unifiée, qu'on l'aime ou pas, hein, mais c'est le cas. C'est-à-dire, on peut s'en plaindre, parce que j'ai vu beaucoup de critiques de la culture populaire qui tiennent à la question de la culture industrielle. C'est vrai.
C'est inévitable de faire ce rapprochement-là, parce que, effectivement... très souvent, quand on va questionner certaines décisions prises par des studios, par des éditeurs, on en revient à l'aspect de l'argent.
Bien sûr, donc, bien sûr.
Et je pense qu'une erreur, c'est de l'ignorer, ça.
Oui, tout à fait.
Alors que c'est central à une culture qui se plie, mais s'adapte aussi au régime capitaliste.
Absolument, absolument. De toute façon... il n'existe plus à proprement parler de folklore locaux qui échappe à ce gigantesque folklore mondial qu'est la culture populaire.
Absolument. Un exemple qui me vient en tête, c'est ce qu'on pourrait aujourd'hui parler d'un folklore très contemporain, c'est celui des creepypastas. C'est des histoires d'horreur sur Internet.
Ouais.
Et l'une des premières qui est devenue rapidement populaire sur Internet, c'est le Slenderman.
Oui.
Quand il a eu droit à son film chez Sony,
oui.
Alors là, on allait au multiplex voir le film du Slenderman. Oui. Il y avait deux déceptions. D'une part, bon, le film était très mauvais.
Oui.
Mais de l'autre, c'était l'impression, justement, d'une perte. Parce que le Slenderman cessait d'être souterrain. Il cessait d'être ce récit entre initiés qu'on connaissait que sur le web. Et là, il en devenait moins intéressant, moins séduisant.
C'est un destin des folklores spontanés qui vont aussi produire, alors à différentes échelles de gravité, enfin, une autre creepypasta... Candle Cove donné naissance à une série qui est pas mal.
Oui, selon moi, n'arrive pas à la cheville de l'histoire originale.
Ah non, bien sûr.
Et renversante. Et qui a eu droit même à des petites adaptations sur YouTube. Il y a des gens avant la production de la série mainstream ou professionnelle. Ça, c'est un autre terme pour aborder la culture populaire. C'est aussi la culture professionnelle. Et ces images-là, faites avec des bouts de ficelle par des fans de Kendall Cove, étaient beaucoup plus efficaces que ce qu'on a pu voir à la télévision par la suite.
C'est vrai, c'est vrai.
Comme s'il y avait un appauvrissement de ces récits-là. Et je me pose la question, avec aujourd'hui la possibilité de commander les écrits gnostiques sur Amazon,
oui.
Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi cette perte-là qui aurait eu lieu?
On n'est pas à l'abri de la série Netflix, Les Gnostiques. Hein?
Ben, pourquoi pas, à la rigueur?
Pourquoi ça pas?
Ça pourrait être intéressant.
Pourquoi pas? Mais de toute façon, comment dire, pour moi, en tout cas, ça ne peut pas être un argument suffisant contre les cultures initiales. Le fait que, de toute façon, à un moment ou à un autre, elles rencontrent cette industrie professionnelle qui transforme tout en argent. Pour une période créative de la musique pop, il y a ensuite des périodes rébarbatives et emmerdantes de répétition à l'infini, des mêmes schèmes simplifiés, vulgaires, etc. C'est normal. Ce qui est important, c'est de comprendre que, de toute façon, le médium d'expression doit tout le temps changer. À partir du moment où il est occupé, on bouge. C'est vraiment ça le truc, c'est que les gnostiques, ou la pensée divine qui traverse ces textes gnostiques, n'a pas pour objet de faire un culte gnostique. Ça doit traverser à peu près tout. Et c'est ces accès-là qui sont intéressants. C'est-à-dire que, et c'est là où on va avoir une rencontre, mais une rencontre extraordinaire, que Permédic dans l'exégèse, où il dit, alors il dit plusieurs trucs. Alors Dick, dans l'exégèse, il dit, je suis le premier écrivain américain marxiste, peut-être le seul, et j'en suis très fier. Et il ajoute, il dit aussi qu'il faut comprendre le gnosticisme comme le marxisme du christianisme. Dans ce sens-là, comment on l'entend? On l'entend d'une façon, justement, dans l'idée d'un souci permanent du politique, mais pas dans le but de réaliser, sous la forme d'un État, concrètement, la dictature du prolétariat. C'est-à-dire que là, je crois qu'il faudrait l'associer à tout ce qu'a pu dire de très intéressant Bernard Friot sur... en fait, le fait que le communisme, les réussites du communisme ne sont pas les États communistes. C'est les modifications que la pensée communiste a pu faire sur les systèmes sociaux. C'est la façon dont la pensée communiste a permis les systèmes de sécurité sociale en France ou des choses comme ça. C'est ça, en fait. Donc, en ce sens-là, on peut dire le Dick ou les gnostiques, il faut les aborder de cette façon, c'est-à-dire ce qui est important, c'est pas l'idée qu'un jour les gnostiques pourront dominer la terre comme les chrétiens l'ont fait, ça c'est complètement con, parce qu'ils deviendraient aussi cons, parce qu'en fait c'est encore une fois là ça serait structurel ou systémique. C'est la façon dont, de toute façon, toutes les religions monothéistes ont été transformées par les gnostiques de l'intérieur, et il y a toujours eu la possibilité, à plus ou moins grande échelle, de réacquérir les possibilités de vie envisagées comme horizon par les gnostiques au sein même du christianisme.
Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir, il bâtit une tour, puis il l'alloua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche de la récolte, il dépêcha trois de ses valets aux vignerons qui exigèrent les fruits de la vigne. Mais les vignerons saisirent les serviteurs, rouèrent de coups l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de même. Pour en finir, il leur envoya son fils, pensant qu'ils auraient des égards pour lui. Mais les vignerons, en voyant le fils, sans hésitation aucune, s'écrièrent « Il faut le tuer, c'est le moyen cette fois de s'emparer de son héritage. » Et le saisissant, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc, quand viendra le propriétaire de la vigne, que fera-t-il à ses vignerons?
Il fera périr misérablement ses misérables. Et il louera sa vigne à d'autres vignerons qui, eux, lui enverront les fruits au temps de la récolte.
N'auriez-vous jamais lu dans les Écritures La pierre qu'avaient rejetée les constructeurs est celle qui est devenue la pierre d'angle. Voilà l'œuvre du Seigneur. Elle est admirable à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu sera ôté au vôtre et sera donné à un peuple qui le fera fructifier. Et celui qui tombera sur cette pierre-là s'y fracassera, et quant à celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera.
Un moment qui est le moment Qatar, il y a eu une tentative d'application politique, d'ailleurs très proche finalement du communisme, puisqu'il y a eu la question du partage des terres, la terre appartient à celui qui la cultive, etc. Et on pourrait dire même de toute façon, dans la, comment dire, en résonance avec toutes les révoltes paysannes, espèce de proto-communisme médiéval s'est retrouvé en plein et parfait accord avec la pensée gnostique. Et donc, le moment Qatar a été un moment de tentative de vie parfaite. Elle a été empêchée ou entravée par l'Église chrétienne. Bon, il y a eu croisade et il y a eu extermination. Très sale, très laide. Bon, on sait. Mais exactement, on pourrait dire comme il y a eu une répression de la commune, et que c'était on peut considérer que la commune était exterminée, enfin que c'est l'extermination des communards. Franchement, je ne vois pas de grande différence finalement dans le fonctionnement à un moment de la façon dont le pouvoir réagit à la tentative d'une autre vie possible. Mais on s'arrête pas, nous ne nous arrêtons pas à ça. Dernier exemple, on pourrait dire la culture populaire ouvre cette possibilité sur un mode mondial, c'est la première tentative mondiale de réappropriation de la pensée gnostique, passant à travers les figures majeures et les exemples majeurs de modification de perception, comme de modification de mode de vie, que sont les Beatles ou David Bowie. Oui.
Ben, un qui me vient en tête, qui m'apparaît significatif, c'est du côté des comics. Et DC et Marvel ont des séries. Chez Marvel, cette série-là s'appelle What If. Oui. Et le concept, c'est que What If Spider-Man was never bitten by a spider? Oui. Donc, on explore cette possibilité fictive-là. Oui. Et ça donne souvent des résultats qui permettent de repenser ces personnages-là. Oui. À la lumière d'un récit parallèle, mais aussi et surtout à la lumière de ce qu'on pourrait appeler le récit principal. Il me semble qu'il y a quelque chose de l'héritage gnostique dans cette idée-là de « on nous a enseigné les testaments canoniques, mais voici des guides pour les réfléchir autrement. »
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, je serais très intéressé, je n'ai pas trouvé encore le livre qui fasse la synthèse de toutes les perceptions différentes de Jésus à travers les... Comment se dessine Jésus selon les différents textes qu'il explore de cette époque-là. Si, ou what if Jésus, c'était juste l'évangile de Matthieu, par exemple, point barre. Jésus, c'est le Nouveau Testament, point barre. Jésus, c'est l'évangile de Thomas, point barre. Jésus, c'est l'ensemble des évangiles gnostiques, point barre. Jésus, c'est les évangiles chrétiens et les évangiles gnostiques, qu'est-ce que ça donne? Et à chaque fois, on peut dire, voilà quel serait le portrait de cet homme. Parce que, par exemple, un élément qui distingue vraiment le Jésus des gnostiques du Jésus des chrétiens, c'est qu'il meurt beaucoup plus tard. C'est qu'il y a souvent des récits dans lesquels on dit que les apôtres voient Jésus, enfin les apôtres, ils ne les appellent pas les apôtres d'ailleurs, les amis, ou les voient Jésus 25 ans après la résurrection.
Hein?
Donc, ils n'imaginent pas du tout. Hein, et Jésus mort à 33 ans, ça n'a jamais lieu dans les textes gnostiques. Jésus, c'est un mec qui est encore resté là un moment, pas forcément jusqu'à 70 ou 80 balais, mais un moment. En outre, il n'y a aucun récit de crucifixion. Aucun. Alors, n'était-il pas intéressé ou est-ce que cela ne rentrait pas dans leur perspective? Je ne sais pas. Mais je pense de toute façon qu'il faut distinguer chez les gnostiques la crucifixion de la résurrection. Puisque Jésus dit tout le temps qu'il faut ressusciter avant de mourir. C'est indispensable que chacun ressuscite avant de mourir. Qu'il considère que lui-même a ressuscité. Et dans la perspective de Jésus, ressusciter, c'est avoir l'anamnèse et vivre dans le royaume. Avoir l'anamnèse et vivre en royaume, c'est en fait vivre vraiment dans un ici et maintenant. C'est presque de l'ordre de l'illumination zen. C'est presque de l'ordre du satori. C'est d'être un être réalisé. Donc, la résurrection, dans le gnosticisme, c'est pas un truc physique. C'est un truc psychique. C'est un truc mental. C'est un truc qui précède la mort. Donc, tous ces éléments-là font que, de toute manière, si on devait vraiment construire un récit de Jésus selon les textes gnostiques, on aurait forcément autre chose. Je ne sais pas quoi. Je serais curieux de savoir quoi. On est encore au tout début de l'étude des textes gnostiques, pour moi. Ça a à peine commencé, tout ça. C'est une histoire récente. On découvre les textes en 45. Ce qui m'étonne, c'est qu'on ne l'ait pas fait plus. C'est que ça fasse maintenant 70 ans et qu'on ait si peu d'études. Mais quand on regarde comme il y a si peu d'études du manichéisme, ce n'est pas si surprenant. C'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment un défaut d'intérêt pour les exterminer, finalement, de l'histoire du christianisme. Un autre truc, c'est qu'il est clair que l'élément traumatique dans l'histoire des gnostiques comme celle des manichéens ou des cathares, l'élément traumatique est une raison suffisante pour le fait qu'il y ait eu si peu d'histoire dessus. C'est-à-dire que de toute façon, on n'aime pas revenir là-dessus. Ça fait partie des secrets de famille de l'Occident. C'est un secret de famille de l'Occident. Donc, c'est exactement en fait comme un grand-père incestueux ou un membre de la famille qui était collaborateur avec les nazis, quoi. Enfin, c'est des choses, on le sait, on préfère ne pas trop en parler. Moi, j'ai déjà eu ce type de confrontation avec des chrétiens. Alors, pas tous, hein, j'ai des très bons amis chrétiens, comme diraient les racistes qui disent « j'ai un très bon ami noir, un bon ami chrétien ». Non, mais c'est vrai, d'ailleurs, j'ai de très bons amis chrétiens. Mais j'ai rencontré un certain nombre de chrétiens dont les arguments qui étaient dits pour le manque d'intérêt qu'ils pouvaient avoir, c'était que ce n'était pas digne d'intérêt. C'est-à-dire, ils disaient, oui, les cathares, c'est vraiment dommage pour eux, ce n'est pas une des histoires dont on peut se glorifier, mais sur le fond, ce qu'ils proposaient n'était pas très intéressant. Ah bon? Bon, bah écoute, d'accord, continue. Hein, et les personnes qui disaient ça étaient des personnes qui étaient finalement soucieuses de préserver, on va dire, l'idée que même s'il y avait eu des crimes qui avaient été commis dans leur famille, c'était leur famille. C'était celle-là qu'il fallait défendre. C'est-à-dire que c'était animal, en fait, leur défense du christianisme. Elle était de l'ordre de la protection animale du groupe. Et c'est malgré que ça soit mondial ou universel, c'est proche de la question du récit national. Il y a toujours besoin du roman national. Il y a toujours besoin d'un roman national. Donc, de la même façon, bon, aujourd'hui, tout ça est en train de trembler, et ça, c'est super. Moi, je suis, aux anges quand je vois que l'année Napoléon pose autant de problèmes. Je suis ravi. Je n'ai pas forcément d'opinion précise là-dessus, mais je trouve très, très bien que ces commémorations que je trouve caricaturales et grotesques soient empêchées par tous ceux qui disent « Attention, Napoléon, il a dit ça aussi, il a fait ça aussi, etc. Est-ce qu'on peut en reparler ?» Et la même chose nécessairement arrive avec l'histoire du christianisme. Et c'est à ça que c'était arrivé, je pense, dans les années 60, en tout cas, quand Évidemment, il y a eu ce regain d'intérêt ou cette première prise de contact franche et massive, oui, globale, avec les textes gnostiques, qui a eu donc plusieurs, qui a eu une périodicité, qui a eu plusieurs périodes, qui a vraiment une période vraiment, on pourrait dire Beatles, Bowie comme grand nom, mais on peut dire que ça immerge toute la culture pop musicale. Et il y a eu, par l'intermédiaire de Dick, une période cinéma-série à travers la science-fiction dystopique où, de nouveau, c'est devenu très fort. Après, on peut avoir plein de récits parallèles qui peuvent, oui, se forger par rapport à ça.
Say it.
I threw that man overboard.
You'll tell the captain and the authorities?
No.
Why not?
Because I'm the authority.
All right, you're the authority on everything. Creation, Isaac and Abraham, the decathlon, and yet you only won the bronze.
Well, that was before.
Of course. Because you weren't always God. You had to die in a rock climbing accident and come back to life just like your son Jesus, who, strangely, doesn't seem to get a mention here on your little card.
He wasn't my son.
You're denying paternity?
Mary's word versus mine.
And yet you still see fit to steal his story for yourself. He was the one who died and rose again.
No. He rotted in the cave.
What?
Jesus had an identical twin brother. That's who everyone saw a few days later. Thus the confusion.
So you take no responsibility for your only son giving his life for the sins of mankind?
Seems a lot to ask somebody.
Then what do you take responsibility for? Dinosaurs? The Black Plague? Mount Everest? The Mona Lisa? The sudden departure?
Yeah, that was me.
The sudden departure was you.
Uh-huh.
Why?
Because I could.
You're gonna have to do better than that.
No, I don't.
You do.
Why?
Because there has to be a reason.
Why?
Everything in my life I've done for a reason.
Why?
To help people, to guide them, to ease their suffering, even though I suffered myself. I sacrificed my happiness. I let my family abandon me.
Why?
For you!
Everything you've done because you thought I was watching. Because you thought I was judging. But I wasn't. I'm not. You've never done anything for me. You did it for yourself.
Is that why you're killing me? When I was a boy, I was sick. And I prayed to you to save me, and you did. Why is it back?
I can save you again.
No, you can't.
Untie me.
Notre entretien arrive à sa fin. C'était,
oui,
vraiment jalon. Fascinant de discuter avec toi.
Ah, merci.
Mais pour finir,
oui,
j'aimerais t'évoquer un souvenir
oui,
qui m'est arrivé il y a un an.
Oui.
Je crois va être interpellé parce que tu as écrit un très beau livre sur la série The Leftovers. Et,
avec Sarah Achtuel, on l'a écrit à deux.
Absolument, absolument. Très beau livre. Et je me souviens... l'an passé, presque un an jour pour jour, sortir très tôt le matin pour aller à ma boulangerie, qui était l'un des rares commerces à être toujours ouvert à Montréal à cause du confinement, et me retrouver seul dans les rues d'un quartier qui est habituellement très achalandé, j'ai tout de suite repensé au livre de Nora. Et au monde, à ce monde parallèle, on a beaucoup parlé de ça aujourd'hui, le monde du 2%.
Oui.
Et ça a été une impression. J'ai eu une réaction quasiment violente, psychiquement, de me dire, mais on y est. On y est. Où sont les autres? Et c'était, c'était quelque chose d'un peu troublant de se rendre compte. On parle de comment Kédic a réussi à anticiper la réalité virtuelle, le jeu vidéo. Et j'aurais pas pensé vivre un moment pareil. Je pense pas que personne aurait pensé vivre un moment comme le confinement mondial, qui est de moins en moins un moment, on est d'accord. Mais de voir, de découvrir tout de suite qu'une œuvre de fiction que j'aime, qui m'a aidé à réfléchir, qui est un peu une sorte de guide gnostique à mes yeux, de Leftovers, mais de constater comment cette série-là pouvait anticiper quelque chose de façon aussi rapprochée.
Lindelof, c'est fou. Parce qu'en un an, on a eu les trois séries.
Absolument.
Ils se sont incarnés. Parce que la quarantaine de Desmond aussi, moi j'ai beaucoup pensé, dans un premier temps du confinement. En intérieur, on était comme des Desmond, à devoir rester à l'intérieur, comme ça, à rouler comme ça dans son espace clos, à vouloir aller dehors. Et quand on dit dehors, on était dans The Leftovers. Et puis après, en la période de déconfinement, il y a eu Black Lives Matter. Et là, on a vu Trump faire le discours inaugural pour se faire réélire à Tulsa, dans la ville de Tulsa, qui est la ville des massacres, qui est la source historique de cette série donc,
Watchmen,
qui joue sur... un what if, évidemment comme la bande dessinée de Moore, mais avec d'autres thèmes qui sont vraiment abordés, en particulier les suprématistes blancs qui veulent reprendre la main. Et de l'autre côté, les noirs qui ne se laisseront pas faire. Mais tout ça dans un univers de masques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul épisode de Watchmen, hein, je les ai tous revus, j'en avais vérifié, qui n'évoque pas à un moment la notion symbolique du masque. Ça, c'était génial. C'est-à-dire que toutes les variantes de est-ce qu'un masque, c'est pour se cacher ou est-ce que c'est pour révéler autre chose? Est-ce qu'on est plus fort quand on porte un masque ou quand on ne le porte pas? Le Ku Klux Klan porte des masques, les super-héros portent des masques, les flics portent des masques, etc., etc., etc. On porte des masques parce que on veut pas se faire repérer, ou on porte des masques pour se faire remarquer.
On porte même un masque pour refléter le visage de l'autre.
Oui.
Ça, c'est une image très forte
oui.
dans la série Watchmen.
Oui.
How long have you lived in Tulsa?
Only 5 years. Six. Oh, six.
What do you have for breakfast this morning?
Cereal, I think.
If I defecated on the American flag, how would that make you feel?
Defecated?
Shit. If I took a shit on the American flag, how would that make you feel?
Confused.
Are you a member of, or do you associate with, members of the white supremacist organization known as the Seventh Cavalry?
No.
Do you believe that transdimensional attacks are hoaxes staged by the U.S. government?
Maybe.
Are you a member of, or do you associate with, members of the white supremacist organization known as the Seventh Cavalry?
You already asked me that.
Should all Americans pay taxes?
Yes.
Are you a member of, or do you associate with, members of the white supremacist organization known as the Seventh Cavalry? Are you a member of, or do you associate with, members of the white supremacist organization known as the Seventh Cavalry? Are you a member of, or do you associate with, members of the white supremacist group known as the Seventh Cavalry?
No.
En fait, on a une obsession, une focalisation obsessionnelle sur la possibilité d'un danger représenté par les suprématistes. Alors là, on peut dire type QAnon et tout ça. Oui, à fond, bien sûr. Et d'ailleurs, parmi toutes les séquences historiques dans la réalité qui ont fait penser à Watchmen, même la prise du Capitole, l'attentat de prise du Capitole, avait un côté lindelovienne dans sa forme.
Oui, et ce qui était, on parlait de mécompréhension. Il y en a une chez Lindelof dans son Watchmen parce que les disciples de Rorschach n'ont pas compris Rorschach.
Oui, tout à fait.
Probablement que le personnage d'Alan Moore les mépriserait.
Bien bon, sûr, évidemment.
Pas qu'il soit non plus complètement clean, le Rorschach. Oui. On s'entend que...
Oui.
Mais il n'est pas motivé par les mêmes enjeux. En fait, c'est que son journal a été mal lu.
Oui, bien sûr. C'est compliqué, en fait. C'est très intéressant. Ça demanderait quasiment qu'on prenne 2 heures de plus. Parce que, d'une certaine façon, on pourrait justement rentrer sur la question de la difficulté d'approcher le phénomène du complotisme à partir de Rorschach et de la 7e cavalerie. Parce que Rorschach... Et de toute façon, il est tué pour ça. Il est témoin d'un authentique complot. Faut pas déconner. Ce que fait Ozymandias, et qui va être ensuite caché, est pour un greater good une véritable abomination. Ça, c'est dans la bande dessinée de Moore. C'est là. C'est un truc présent. On peut dire que c'est vraiment une grande branche de la fiction initiale de Watchmen. Ce qu'il y a dans la série Watchmen de Lindelof, c'est les répercussions politique de cet acte. Et donc, c'est la création de ce groupe type QAnon que serait la 7e cavalerie. Donc, c'est les mensonges gouvernementaux, même pour un moindre mal, créer de l'autre côté des groupes d'énervés d'une dangerosité qui n'est pas niable, une dangerosité absolue. Et en même temps, ce qui traverse la série Watchmen de Lindelof, c'est l'idée que ces différentes mauvaises solutions à un problème vont être aussi balayées par la tendance représentée par Lady Trieu, qui est la plus discrète de toute la série, mais qui est le suprême danger, qui est véritablement le geste prométhéen des transhumanistes, qui veulent s'approprier la puissance de notre ami Dr Manhattan pour diriger. Avec des bonnes intentions, toujours, parce qu'il y a toujours des bonnes intentions. Et l'ambiguïté de Watchmen fait qu'à la fin, il ne choisit pas, puisque Angela elle-même va prendre la puissance de Dr Manhattan. Donc, il est arrivé au même point, du reste, que la série qui, pour moi, est la série qui annonce le plus Watchmen, même si je ne sais même pas si Lindelof l'a vu, qui était Dollhouse, qui était la dernière série à ce jour de Joss Whedon. La prochaine n'ayant pas encore commencé, et je crois qu'il est viré du générique. Je ne sais pas s'il est viré du générique, mais enfin, bon, vu ce qui lui arrive en ce moment, il fait plus partie du tableau. Donc, il veut The Never, je crois, The Never.
The Nevers, oui.
The Nevers. Donc, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer, mais la dernière à ce jour, qui était Dollhouse, qui était passionnante, était sur le même type d'ambiguïté à la fin, c'est-à-dire avec finalement des personnes qui décident, pour des raisons égoïstes, d'utiliser la plus grande puissance possible et donc de devenir des sortes d'immortels, ou en tout cas de rêver d'être des sortes d'immortels. Et l'héroïne qui les combat devient elle-même un monstre de puissance pour pouvoir les combattre. Et on est dans cette zone extrêmement délicate qui est qu'est-ce qu'on fait face à un très grand danger. Et pour l'instant, ils en sont au même point finalement que Lennon dans Revolution, qui est, si tu me demandes si je suis pour la destruction, mais si tu parles de destruction, tu peux ne me compte pas sur moi, compte sur moi. Et il ne sait pas, you can count me in, count me out, ou count me out, count me in. Et on est dans cette espèce d'ambiguïté qui est face à la violence actuelle du monde politique ou du monde économique, est-ce qu'on peut préserver notre éthique, ou est-ce que ce sera impossible ? Et on a fait un tour complet, c'est-à-dire qu'on est revenu finalement. Lennon se posait ses questions par rapport à la guerre du Vietnam. On se les repose aujourd'hui par rapport à la guerre économique globalisée, quoi. C'est-à-dire l'appauvrissement des peuples, la mainmise de l'économie pour dans un nombre limité d'individus, enfin une espèce de super capitalisme 3.0 ou je ne sais pas quoi, et qui ont en plus des espèces d'ambitions délirantes, certes, hein, probablement impossibles, mais qui seraient de tuer la mort. C'était leur seul slogan des transhumanistes, type Google Lab et compagnie, tuer la mort. Ça, évidemment, c'est leur dernière, c'est la conquête ultime de ceux qui croient tout posséder. Et Watchmen implique ça aussi à travers le personnage de Lady Trieu. Lady Trieu est vraiment modélisée sur ces figures, avec en plus tout ce qu'ils peuvent avoir de sympathique socialement, parce que c'est une antiraciste, elle est elle-même de toute façon une fille d'émigrée. Elle partage, on va dire, les enjeux politiques d'Angela. Elle croit qu'elles sont sur le même terrain d'égalité. Mais profondément, l'hubris qu'elle représente est un danger.
Comme quoi, on n'aura pas fini de réfléchir l'actualité à partir de la culture populaire.
Ah non, non. Et alors, si on passe à Lindelof, c'est anormal. Non, mais j'ai toujours adoré les séries de Lindelof, mais je n'imaginais pas qu'elles deviendraient aussi objectivement pertinentes que l'année dernière.
Oui, absolument.
Et encore aujourd'hui, il y a pas. C'est vrai qu'il y a, il y a difficilement une semaine qui passe sans qu'on soit obligé de penser à Lindelof. Qui fait qu'il s'est hissé vraiment dans les tout premiers noms qui reviennent pour moi en tout cas sans cesse à mon esprit quand je pense aux choses, quoi. Dit bon voilà, Lindelof est là aussi il y a du Lindelof, comme Lynch en fait. Ouais, c'est un peu on est un peu avec eux sur des formes extrêmes de rapport à l'artiste visionnaire. Et c'est passé ça aussi avec cinéaste français que j'adore, qui est Bertrand Mandicot, avec Les Garçons Sauvages. Les Garçons Sauvages ont eu un peu cet effet-là aussi. C'était un film, il ne l'a pas fait exprès, mais qui allait avec les questions de genre qu'elle se posait dans l'année qui a suivi la sortie du film, sur le féminin, le masculin, transsexualité, etc. Mais aussi avec... il y avait juste cette phrase à la fin qui était « L'avenir est femme, l'avenir est sorcière ». Et au moment où le film sort, il y a aussi le livre de Mona Chollet, Sorcières. Bon, il y avait déjà le livre de Chloé Delhomme, Les Sorcières de la République, mais il y a ce truc où, bon, certes, 10 ans ou 15 ans après les États-Unis, la France se passionne pour toutes les questions liées aux sorcières, à la sororité, etc. etc. Et pour connaître Mandicot, il n'y pensait pas du tout. Il a fait ça totalement spontanément. Il ne savait même pas pourquoi il devait les foutre dans son film, quoi. Mais c'était dedans.
C'est formidable quand les artistes réussissent justement à anticiper l'avenir. Et on a hâte au prochain film de Bertrand Mandicot, bien sûr, mais aussi au prochain projet de Lindelof, surtout sachant que HBO lui a donné carte blanche.
Mandicot, j'ai hâte, mais je sais déjà ce que c'est. Donc.
Oui, c'est vrai. Est-ce que tu participes au film?
Son deuxième film... After Blue, il a déjà terminé la réalisation. J'ai vu un montage. Je n'ai pas vu la version définitive. Et pour moi, c'est encore plus beau que Les Garçons Sauvages, mais à un point inimaginable. Pour moi, c'était vraiment c'était un choc. Et je ne l'ai même pas vu totalement terminé. Donc, After Blue, je crois que c'est en automne qu'il doit sortir.
Peut-être un festival avant. J'imagine J'imagine que c'est dans les plans.
En tout cas, c'est... Oui, lui, il n'a pas fini de nous étonner.
Et toi non plus, Pacombe. Pacombe, merci beaucoup d'avoir accepté
d'être
avec moi. Tu parlais de ton blog. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse pour que les auditeurs puissent...
Oui, alors il faut que je la retrouve. ne quittez pas. Alors voilà, c'est le livre sans visage tout attaché .blogspot.com. Le livre sans visage tout attaché .blogspot.com. C'est mon blog, c'est ma seule présence... direct sur Internet, évidemment des podcasts ou des interviews, puisque j'avais quitté l'ensemble des réseaux sociaux il y a 6 mois à peu près. Mais c'est un blog que je nourris régulièrement de textes courts, d'analyses ou de la situation, ou des fois aussi d'informations ou de liens pour des... Enfin, c'est comme une page, quoi, sauf que ce n'est pas sur un réseau social. C'est sur un blog à l'ancienne. C'est sur un vieux chouchou.
On ira te lire là. Pacôme, merci encore et laisse-moi te souhaiter...
Merci, Simon.
Laisse-moi te souhaiter une joyeuse Pâques.
Merci, toi aussi, joyeuse Pâques. À bientôt.
Zoom out.
Est-ce que tu es Don Juan?
Non.
Amusez-vous bien!